France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Elle vient de remporter le prix Femina avec son livre La nuit au cœur, paru chez Gallimard. Natacha Apana sera mon invitée à partir de 13h. Et tout de suite, place à la critique cinéma de la semaine avec Deux procureurs, nouveau film de fiction du cinéaste ukrainien Sergei Losnitsa. Et puis Frankenstein, porté à l'écran par Guillermo del Toro sur Netflix à partir du 7 novembre. Vous écoutez les Midis de Culture et c'est ici et c'est maintenant. Et je vous présente les critiques du jour. Olivier Lame, journaliste et critique au journal Libération.
Bonjour Marie.
Bonjour. Muriel Joudé, critique de cinéma au journal Le Monde. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux. Et on commence donc avec Deux procureurs, le nouveau film de fiction de Sergei Losnitsa. Je précise, parce qu'il y a pas un mois, sortait son long métrage documentaire L'invasion sur les conséquences de l'agression russe dans son pays, l'Ukraine. Avec Deux procureurs, Losnitsa creuse une veine qui le passionne, l'histoire de la violence d'État en Union soviétique. Adapté d'une nouvelle éponyme redécouverte en 2009, le film suit le parcours d'un jeune procureur en 1937, fidèle enthousiaste du parti et de son idéologie, qui reçoit un jour la lettre d'un détenu passé entre les mailles de la censure. Alors qu'il se déplace pour rencontrer le prisonnier dans un centre de détention assez abominable, il va peu à peu découvrir l'horreur des purges. On commence avec quelques mots d'abord, Muriel Joudé.
Pour moi, c'est comme un cauchemar, mais qui est filmé comme un rêve.
Ah, c'est joli, ça. Olivier Lame.
Ouais, c'est un film moi, que je trouve formidable parce qu'on n'arrive jamais à décider en fait, si ce qu'il nous montre est une vision exacte, historiquement, ou totalement poétique, et voire délirante de son histoire absurde.
On va écouter la bande-annonce de Deux procureurs.
Advocat, procureur, за местами заключения в Брянске.
У вас содержится арестованный Степняк Иван Степанович.
Спецкорпус.
Давай помаринуем его немного.
Deux procureurs de Sergei Losnitsa en salle aujourd'hui. Je disais qu'il réalise aussi des documentaires. Là, avec ce film de fiction, on n'est pas du tout dans une veine réaliste. On est, vous le disiez, dans un cauchemar, dans quelque chose d'étrange.
Oui, ça fait un moment, ça fait plusieurs années que Losnitsa réalise des documentaires. Alors, il dit que c'est à cause du confinement et puis de la guerre en Ukraine qui l'ont empêché de financer ses films. Et donc, il s'est mis au documentaire. Et là, il revient avec une fiction qui a quelque chose d'une sorte de dispositif théâtral. Alors, je fais attention quand je dis aussi dispositif d'art contemporain, parce que je sais que souvent, voilà, les critiques d'art se moquent de moi. Mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, je pense que le meilleur thème, c'est abstrait. C'est-à-dire que c'est un film complètement abstrait et qui travaille beaucoup, je trouve, la question de comment on va se souvenir du film et qu'est-ce qui va nous rester du film. Et ce qu'il en reste, c'est une sorte de labyrinthe bureaucratique dans lequel flottent des visages de grands acteurs, parce que les acteurs sont incroyables, et même quand ils ont 5 minutes de présence, ils arrivent à être justes. C'est toujours très dur d'être juste quand on n'a que 5 minutes dans un film. Et surtout, un visage en particulier, celui de l'acteur principal, Alexander Kuznetsov, qui est incroyable, qui a ce nez cassé, littéralement. Ouais. Et je pense que tout dans le film renvoie à plein de références, et chacun a les siennes. Alors moi, j'ai un ami qui me disait, on dirait Wes Anderson, et on pense, c'est vrai, à presque un figurant qui attendrait de jouer sa scène dans un Wes Anderson. On pense aussi à Jacques Tati, et je crois que c'est une des grandes références de Losnitsa. On pense aussi à la littérature, à Dostoïevski, à la fois l'idiot, mais aussi l'adolescent, pour ce visage poupon comme ça qui traverse ce monde adulte. Donc le film est lourd de plein de choses, de références, d'aussi d'une actualité. Enfin, c'est à la fois un film historique et possiblement la métaphore de quelque chose. Et il arrive malgré tout à être poids plume, à être d'une légèreté vraiment onirique, et à être. Et moi, pour moi, sa plus belle qualité, c'est cette dimension complètement abstraite, c'est-à-dire quelqu'un qui. C'est pas tant le film de quelqu'un qui s'entretient comme ça avec des hauts fonctionnaires soviétiques que quelqu'un qui attend, qui s'endort. Et même, pour la petite histoire, moi, je me suis assoupie, je pense, 2 minutes. Et je me suis réveillée. Je me suis dit, c'est le plus bel hommage qu'on peut faire au film, c'est de s'assoupir. Parce qu'en fait, on s'assoupit en même temps que le personnage. Et il y a comme ça quelque chose de l'ordre du flottement. C'est-à-dire, je me réveille. Est-ce que je ne suis pas en train de rêver quelque chose? Est-ce que je ne suis pas en train de rêver ce cauchemar soviétique? Et donc, on est. Le film cherche une sorte comme ça de disponibilité du spectateur qui entre la sieste et la veille et tout est très beau parce que moi ce que j'aime pas souvent dans les fictions canoises et dans les fictions politiques ou quand on attend un film iranien ou un film ukrainien on attend souvent le propos politique, le film engagé, et là c'est tout l'inverse, c'est vraiment quelqu'un qui, on sent que le film a été travaillé comme vous attendez de moi peut-être une fiction qui parlerait de la Russie et de l'Ukraine. Et on sent qu'il se construit contre cette fiction politique canoise qui parfois pèse 10 tonnes.
Alors qu'est-ce qu'il raconte, Olivier Lam?
Si on veut parler d'hypnose ou d'assoupissement, il y a un moment d'ailleurs très beau où le personnage principal est dans un train et se fait raconter une anecdote de la Révolution par un vétéran de la Révolution, donc qui est de la génération précédente, la génération bolchévique, léniniste. Il s'endort effectivement. C'est absolument merveilleux. Et sans que ça produise aucune espèce de conclusion particulière. Mais bon, cette hypnose du personnage, c'est quand même celle d'un idéaliste qui va dans la gueule du loup, il est hypnotisé littéralement par les idéaux de l'URSS qui sont mis à l'épreuve, en l'occurrence, des grandes purges staliniennes, dont personne dans le film, pas même la principale victime qui lui indique et qui lui demande d'aller voir Vyshinsky à Moscou, ne peut croire en fait que c'est autre chose qu'un dysfonctionnement local à Briansk, et donc ça peut pas faire système la terreur des grandes purges staliniennes. Et donc il va voir Vyshinsky, qui est le procureur général des procès de Moscou, avec une sorte de naïveté ou de folie, et en même temps, ce qui est formidable, ce que je disais tout à l'heure, donc c'est que le film reste effectivement dans cette espèce de stase un petit peu onirique, qui est celle d'un système complètement délirant, quasiment dadaïste. Alors il se trouve que voilà, comme tout bon daron qui approche la cinquantaine, je lis des biographies de Staline. J'en ai lu plusieurs cet été, qui m'a beaucoup intéressé, amusé et horrifié, qui est celle de Simon Sebag Montefiore, qui s'appelle Staline, la cour du Tsar Rouge, et qui raconte en fait tout le stalinisme, mais vu à travers Staline et son entourage de génocidaires, psychopathes, laquais, zélés, incapables, terrifiés et terrifiants, qui font absolument n'importe quoi, y compris respecter les quotas, puisqu'on sait que les purges staliniennes, on avait des quotas de chiffres, donc peu importe que les gens, évidemment, soient innocents ou coupables, entre guillemets, il fallait, de toute façon, région par région, envoyer des gens au goulag, voir les exécuter. Et c'est un livre absolument hallucinant sur ce qu'était le stalinisme à son maximum d'atroce et donc de burlesque, en fait. Le livre est presque drôle à lire, si je puis dire. Et là, on retrouve en fait cette horreur absolue. Il y a vraiment. Alors, on a envie de citer Kafka, mais pas forcément pour l'évidence en fait de l'enfer, on va dire, de l'administratif. Mais c'est plutôt pour des espèces de petites explosions comme ça d'étrangeté. Par exemple, il se retrouve, donc il est dans les couloirs de la nomenclatura à Moscou. Il monte un escalier et puis il croise un type. Le type le reconnaît comme un ancien camarade de classe, et le personnage principal ne le reconnaît pas. On ne sait pas s'il le reconnaît ou pas. Il lui donne un conseil et on reste sur cette espèce d'entre-deux. Et si quiconque a lu Le Château ou Le Procès sait ce que c'est que cette espèce de, à quel point en fait l'enfermement progressif en fait de l'enfer totalitaire en fait passe par des explosions de dadaïsme, d'étrangeté qui sont absolument impossibles qui sont insolubles en fait, et on reste sur cette espèce d'état insoluble jusqu'à la fin, qui est quasiment une tragédie annoncée, mais qui est pas raconté comme une tragédie, mais effectivement quasiment comme un fait burlesque, étrange, dadaïste, et ça produit vraiment quelque chose de très singulier, qui peut nous renvoyer évidemment, si on veut parler politique, à l'état dans lequel on est, cette espèce d'ébêtement, oui. Je sais plus, face à ce qui nous arrive, face au poutinisme, face à la montée au trumpisme, etc. Voilà, on est vraiment sidéré, et peut-être qu'on continue à avancer effectivement vers la bouche du loup, quoi.
La référence à Tati, vous l'avez vu aussi, Olivier?
Ah, complètement, sur les attentes comme ça, la salle d'attente qui se vide petit à petit de personnages un peu étranges, effectivement ces rencontres de personnages avec des grandes, même quasiment même la silhouette en fait du personnage principal joué par Kuznetsov à quelque chose d'un peu tatiesque, sauf qu'évidemment, Tati ne racontait pas le même enfer.
Sur le procédé, enfin le processus, la scène de théâtre que vous évoquiez, Muriel, est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur l'image de Loznitsa?
Oui, l'image, enfin, ça tient autant alors le travail de la lumière qu'au décor, c'est-à-dire qu'on a...
Parce qu'il y a cette lumière qu'on connaît, qu'on imagine, qui est un cliché de l'URSS, cette lumière
c'est
froide.
Ouais, c'est non-couleur, c'est-à-dire ce glauque, en fait, la meilleure couleur, c'est le glauque. Et même, il y a toute cette première partie dans la prison, on a vraiment, donc il y a un prisonnier qui brûle les lettres, et derrière lui, il y a un grand mur gris. Et vraiment, je trouve que tout le film est travaille l'abstraction par le décor, c'est-à-dire qu'on a des grands aplats de couleurs derrière les acteurs. Donc on passe du gris ensuite à une sorte de kaki, de vert glauque. Je pense qu'il y a eu un travail complètement démentiel sur ce décor-là, qui fait que pas beaucoup de fenêtres, qui fait que vraiment la seule chose à laquelle on se raccroche, ce sont les visages. Et je pense que là, on est presque sur. Enfin, c'est Playtime. Je pense que
porte battante. Qui a à l'entrée de l'immeuble.
Voilà, c'est ça, c'est Playtime. C'est-à-dire que pour moi, l'aboutissement de Jacques Tati, c'est tout son cinéma va vers Playtime, c'est-à-dire la modernité comme cauchemar et en même temps cauchemar burlesque. Et Loznitsa, je lisais une interview dans Trois Couleurs où il disait, moi, mon rêve, ce serait de réaliser un film complètement tatiesque. Et je pense qu'il l'a vraiment atteint ici. Et que c'est aussi, je pense que l'intelligence du film, son intelligence politique vient justement de ce que décrivait Olivier, c'est-à-dire filmer la violence, mais comme quelque chose de faire apparaître la violence en faisant un film non violent, en faisant un film sans violence. En faisant un film qui est comme ça, pris dans un temps qui est presque celui de la... On sent que les hauts fonctionnaires viennent de manger, ils sont en pleine digestion. Et en fait, il n'y a pas plus violent qu'un film sans violence comme ça. Ça me fait penser à Pacific Fiction, c'est-à-dire comment on retranscrit l'absurdité ou même la zone d'intérêt. C'est-à-dire ces films-là qui sont les plus grands films politiques de ces dernières années et qui sont sans violence et qui en même temps parlent de moins de comment dire d'une violence concrète que d'une sorte de paradigme ou d'esprit qui est le nôtre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dans la tête, comment on vit, il y a une sorte de dissonance cognitive avec la réalité, et c'est ça qu'essaye de retranscrire le film, et ça passe, je pense, par tout ce travail comme d'abstraction. Je pense que c'est vraiment, on va en parler avec le film d'après qui n'a absolument aucune abstraction. Là, c'est vraiment, ça nous rappelle que le cinéma et la mise en scène, c'est d'abord un travail de l'abstrait.
Olivier Lam, un dernier mot ?
Oui, tout à fait d'accord. Bah, juste pour revenir deux secondes à l'invasion, le film, le documentaire qui est sorti il y a un mois et demi de Loznitsa exactement, qui était un film qu'il a tourné depuis le début de la guerre, mais pas du tout sur le front, voilà. Si on approche légèrement, et qui était comme une sorte de suite de scénettes dans lesquelles, en fait, Loznitsa, effectivement, a quasiment le même regard. C'est-à-dire qu'il va chercher l'étrange jusque dans la tragédie d'un peuple, en fait, soumis à une guerre qu'il n'a pas choisie et à une invasion terrible. Et il y avait des moments comme ça d'irruption, en fait, de l'étrange, de poésie, voire de beauté, en fait, dans cette horreur absolue, quoi.
Deux procureurs en salle aujourd'hui à la réalisation Sergueï Loznitsa, et on va rappeler le nom du comédien principal, Alexandre Kuznetsov.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Et un Frankenstein de plus, c'est Guillermo del Toro qui s'y attelle cette fois pour une sortie sur Netflix le 7 novembre prochain, vendredi donc. Le cinéaste mexicain a choisi d'adapter assez fidèlement le roman de Mary Shelley, paru en 1818, notamment le système de récits enchâssés qui était à l'œuvre dans le livre. Alors dans cette version de près de 2h30, le docteur Frankenstein est interprété par Oscar Isaac et le monstre par Jacob Elordi. Pour le reste, del Toro s'en donne à cœur joie dans une très grosse production pour déployer son univers romantique et horrifique. Un avis en quelques mots d'abord, Olivier Lam.
Oui, c'est un film si riche qu'il en devient presque difficile d'accès. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'être quand même toujours en empathie avec ce qu'essaye de faire Guillermo del Toro. Voilà.
Mireille Joudet.
Non, moi, il y a pas de cinéma. Enfin, il y a pas de cinéma. Il y a un problème. C'est-à-dire, parler des défauts du film, c'est parler aussi de ce qui est devenu Netflix, forcément.
On va écouter la bande-annonce de Frankenstein de Guillermo del Toro.
My maker told his tale.
And I will tell you mine. Je vois des bribes. Je vois des hommes, des morceaux de souvenirs. Puis je le vis. Ton nom. Victor Frankenstein.
Frankenstein de Guillermo del Toro sur Netflix à partir du 7 novembre prochain. Olivier Lam, vous avez parlé d'empathie. Qu'est-ce qu'il nous raconte aujourd'hui avec ce Frankenstein en 2025 ?
Il nous raconte beaucoup, beaucoup de choses.
Alors ça, oui.
beaucoup de choses qui le concernent, je crois, assez personnellement. Je pense que la question cruciale, c'est celle de Frankenstein depuis sa première adaptation, c'est pourquoi il faut assembler plusieurs parties, plusieurs corps pour créer la vie. Et pour que fonctionne le galvanisme, j'ai découvert ça. Et pour que le film galvanise, en fait, il faut, il ressuscite pas, en fait. Il faut galvaniser. Il faut inventer, en fait. Il faut inventer à partir de bribes. Hein, on entendait dans la citation VF qui était merveilleuse. Et là, on est vraiment sur un film somme de du cinéma de Guillermo del Toro, du cinéma d'horreur, de presque toutes les adaptations, bonnes ou mauvaises, plutôt les bonnes, du roman de Mary Shelley, de siècles d'imagerie, mais aussi de décennies de recherche qui finissent par peser, je trouve, le poids d'une encyclopédie. Effectivement, le film devient extrêmement riche et ne finit, en fait, par raconter quasiment que cette aventure qui a mené Guillermo del Toro depuis des décennies pour adapter ce film dont il dit qu'il est quasiment le film de original, en fait, contenait par le visage de Boris Karloff, en fait, l'image clé de son cinéma, en fait. Il parle d'une apparition christique pour lui, c'est un grand catholique, et je pense qu'il essaie de recréer l'étincelle. Je suis désolé pour toutes ces métaphores pénibles.
Non, pas du tout. On vous écoute bouche bée.
Et avant d'arriver au problème, pour moi, le film, effectivement, moi, on a eu la chance de le voir au cinéma.
En salle, ouais.
Voilà. En tout cas, dans le contexte de la salle de cinéma, en fait, l'écran joue vraiment l'effet d'un aimant. C'est-à-dire qu'on est on a les yeux, en fait, accrochés à l'écran, et c'est très difficile de détourner le regard. On cherche les détails, on cherche les références, on cherche les couleurs. C'est un grand, voilà, passionné d'alchimie, Guillermo del Toro, et si si un personnage, je donne un exemple, l'enfant Frankenstein, Victor Frankenstein, est face à sa mère qui va accoucher. Elle a du sang partout. Elle pose la main sur sa tenue qui est toute blanche, et aussi sur le visage. Et ensuite, on verra que le personnage de Victor Frankenstein sera habillé en rouge quasiment pendant la totalité du film. C'est ce genre de détails, en fait, qu'on cherche, en fait, des yeux. On cherche aussi les petits objets. On cherche les schémas, voilà, qui sont ceux de, et on en arrive effectivement à quelque chose qui finalement est presque quasiment en circuit fermé, parce que je pense que Del Toro avait tellement envie de faire avec ce film un peu le film, voilà, ultime un peu de son cinéma, et peut-être quasiment de son imaginaire, qui finit un peu par nous étouffer. Donc moi je suis dans un rapport assez ambivalent au film, que je trouve pas grandiose, mais que je trouve quand même extrêmement riche et quand même tout le temps passionnant à regarder. Après, on a un problème de facture, ça on va en parler avec Muriel, qui joue quasiment comme une espèce de plafond, comment dire, de mur de verre, qui nous empêche, en fait, d'arriver à quelque chose qui serait d'ordre d'une sublimation ou d'une émotion pure, en fait. C'est très compliqué. Il a fait des films un peu similaires comme ça, qui étaient pleins comme des œufs. Je pense à Crimson Peak, qui est un film qui ressemble beaucoup à celui-ci, mais où la sublimation, en fait, je trouve, arrivait, la cruauté, l'amour, tout ça nous arrivait quasiment comme des émotions directes. Et là, moi, c'est vrai que je suis étrangement pas beaucoup ému par le film.
Pour y ajouter.
Oui, j'ai eu 2h30 pour réfléchir à pourquoi ça marche pas, en fait, les auteurs chez Netflix. C'est-à-dire que Netflix se paye des grands auteurs hollywoodiens, que ce soit Fincher, Catherine Bigelow récemment, Guillermo del Toro, et ce sont Andrew Niccol, qui avait fait le Blonde sur Marilyn Monroe. Et pourquoi, c'est-à-dire, on peut se dire, bon, c'est un hasard si tous ces gens-là font leur pire film chez Netflix. Ou alors, peut-être que non, c'est une sorte de nécessité, c'est-à-dire on ne peut pas faire un grand film chez Netflix. Ça avait bien commencé, ça avait commencé avec Irishman de Scorsese. Et là, pendant vraiment, je me suis dit, bon, je me fais tellement... je m'ennuie tellement, on va dire ça comme ça, devant le film, que je vais réfléchir à ce problème de l'auteurisme Netflix. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça colle totalement avec Deux procureurs, c'est-à-dire il n'y a pas d'abstraction dans le film, il n'y a pas de mise en scène. En fait, le film dure 2h30, pas parce que c'est une vision d'auteur, mais parce que je pense qu'en 30 secondes, on comprend l'enjeu d'une scène, mais Guillermo del Toro va passer 15 minutes dessus. Et pourquoi il passe 15 minutes dessus? Parce qu'il a peur qu'on... C'est vraiment ça, c'est le truc des plateformes, c'est-à-dire est-ce qu'on est sûr que tout le monde a bien compris la scène? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on passe de la mise en scène qui est... le principe de la mise en scène, c'est je fais quelque chose et puis je ne suis pas sûr que le spectateur comprenne. Il y a une sorte de possibilité de déperdition ou d'incompréhension, et c'est ça qui est beau dans l'art. J'espère que tout le monde a compris, c'est-à-dire que ça devient de l'information. Et on transmet une information, et pour moi c'est ça le problème du film, c'est ça qui fait qu'il est hyper lourd, et c'est ça qui fait qu'il n'y a absolument aucune abstraction, c'est que tout le monde a compris et a vu la même chose, et tout le monde verra le film de la même manière. Et c'est le problème de Netflix, c'est que c'est de la transmission d'informations. Le film est lourd de cette chose-là, c'est-à-dire que tout nous explique, mais vraiment, toutes les scènes, on pourrait les... Enfin, durent quasiment 10 minutes, et on pourrait... alors qu'en plus, on connaît l'histoire de Frankenstein, donc on pourrait aller vite, en fait, on pourrait aller beaucoup plus vite. Et là, tout est extrêmement long. Et ramené à, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si Guillermo del Toro, enfin, moi j'ai beaucoup pensé, voilà, à l'univers Marvel, c'est-à-dire l'univers d'un cinéaste ramené à voilà, une sorte de blockbuster entre Harry Potter et Marvel, où se perd la singularité de Guillermo del Toro, c'est-à-dire oui, cette abstraction qui faisait la beauté de ses premiers films, c'est-à-dire cet éloge des monstres qui est ici ramené à quelque chose de très convenu, quoi, qu'on retrouve aussi dans Mercredi Addams de Tim Burton, la série pour Netflix, c'est-à-dire quelque chose pas d'enfantin mais d'infantile, enfin cet éloge de monstres infantiles, genre venez avec votre singularité. Donc on a une première partie, en fait on a le point de vue de Frankenstein dans la deuxième partie, et ça fait que tout est bouclé, c'est-à-dire on a eu le point de vue de tout le monde a parlé, le monstre est gentil, ok, on a compris, en 2025 le monstre doit être gentil et basta. Donc moi, je trouve ça très lourd, en fait, quand on ne me donne pas de place comme spectatrice. Et c'est ça que crée le cinéma Netflix, c'est-à-dire que c'est Serge Dan qui disait, la mise en scène, ça crée la place, ça fabrique littéralement la place du spectateur dans le film. Et là, moi, je n'ai pas de place, je me reçois des pixels dans la gueule, quoi. Et ma place qui est pour interpréter le film, pour penser des choses sur une scène, je ne l'ai pas, ne l'ai pas. Parce que justement, je reçois le film comme n'importe qui va le recevoir partout dans le monde. Et c'est ça qui est un problème.
La créature, qu'est-ce qu'il en fait? Parce que c'est là qu'on pourrait accrocher, on pourrait avoir quelque chose qu'on recevrait pas comme tout le monde, évidemment.
Bah, typiquement, c'est dans certaines images et dans certains accessoires, dans certains objets, un peu des bibelots. Alors, c'est un peu un cinéaste du bibelot aussi, oui, Guillermo del Toro, depuis longtemps. C'est un cinéaste collectionneur, c'est un cinéaste qui a des antres remplis d'objets, y compris des incunables, des choses extrêmement rares, depuis son grenier jusqu'à son sous-sol. Et le film est un peu rempli de cette manière-là. Et précisément, moi, je trouve que la créature est un très beau bibelot. D'accord. Moi, je la trouve intéressante. Je la trouve. Je me pose encore la question de savoir ce qu'en fait Jacob Elordi. Je trouve assez bon, assez touchant. Mais moi, j'aime surtout ce corps de marbre comme ça qui... Je ne sais pas d'ailleurs exactement ce qu'il crée, mais en tout cas, il crée notamment du désir, ce qui est assez inédit, je pense, par rapport aux différentes incarnations de Frankenstein dans le cinéma. Il crée quelque chose de sensuel. On a envie de poser la main sur son torse. Il y a quelque chose quand même qui se crée à cet endroit-là, qui se crée pas partout. Moi, je pense quand même que il y a quelque chose qui subsiste en fait d'un gros projet. Voilà, je parlais de 30 volumes d'encyclopédie. Il y a quelque chose, en fait, quand même, qui surnage, en fait, malgré tout, dans ce long récit, dans certains dialogues, dans certains choix. Moi, je trouve que le retournement, en fait, qui est déjà présent, en fait, dans le roman de Mary Shelley, mais là, qui est vraiment mis en scène comme tel, du point de vue et de qui parle, le changement de narration, crée vraiment quelque chose qui va au-delà de l'empathie ou d'une simple idée de point de vue. Ça change quasiment la mise en scène, en fait. La deuxième partie du film est assez différente de la première. On on est moins dans des grands mouvements de grue, etc. On est plus dans des choses intérieures. Mais jeux vidéo, parce que alors là, voilà, moi je parlais tout à l'heure effectivement de ce qui me retient. On a un gros problème de numérique avec les animaux.
C'est-à-dire
moi les loups en numérique, les je sais plus quels animaux on voit. Quelque chose qui se déréalise de plus en plus. C'est étonnant parce que technologiquement, on devrait aller de plus en plus vers une sorte de photoréalisme qui devrait nous perdre, en fait, nous perdre le regard, comme notre regard peut être perdu par les IA, etc., les IA génératives. Or, c'est exactement pour moi de plus en plus de ce qui se produit de plus en plus. On peut tracer vraiment une lignée depuis l'horrible Jumanji il y a 25 ans, que certains regardent aujourd'hui comme un film vintage. Et moi, je me souviens que j'étais déjà à l'époque très choqué par ces animaux comme ça qui déboulaient, ces tigres, ces éléphants qui étaient faits en numérique et qui créent une espèce de qui nous repousse en fait, qui nous met à l'intérieur d'un. On est des animaux en fait. On a besoin de voir des vrais animaux, sinon on n'est pas bien en fait. Et moi là, je suis pas bien devant ça. Je suis pas bien devant tous ces endroits en fait où le décor en carton pâte en fait se prolonge par du numérique et ont effectivement des mouvements de caméra qui sont complètement irréels. Ça peut créer des choses très belles au numérique, hein. Je suis pas du tout j'aime énormément James Cameron ou Avatar, mais qui a un choix autrement plus radical par rapport au virtuel. Là, on est dans un entre-deux qui n'a jamais aussi mal fonctionné en fait dans le cinéma de Guillermo del Toro, et donc la question se pose pourquoi. Oui. Je veux dire, il a déjà utilisé le numérique, il a fait des c'est quand même un grand fabricant d'images, alors pas des images extrêmement innovantes, voilà, il aime la peinture du 19e et là il nous le montre. Il y a des moments comme ça où tout d'un coup la photo en fait devient, il y a un moment voilà typiquement où il y a un personnage qui est en train de prendre une photographie de qu'il a mise en scène avec une jeune femme nue qui doit croquer dans une pêche, etc. Et là, tout d'un coup, on est quasiment devant, on est au musée d'Orsay, en fait. Pendant un moment très court. Et on s'est dit, mais pourquoi il est obligé de réaliser le film dans cette forme? Et là, on a la réponse. C'est l'industrie, c'est Netflix.
Voilà, on rejoint ce que disait.
Ah, je suis entièrement d'accord avec tout ce que dit Muriel dans le fond, en fait, en général.
Bah, il y a un problème, oui, il y a un problème du numérique, il y a un problème de l'image de plateforme, il y a un problème. Nous, on a eu la chance de le voir dans une salle de cinéma, mais je sais pas qui va regarder ça pendant 2h30 sur un petit écran. Et il y a un problème d'acteur aussi qui, en fait, on est sur un film qui parle de chair et il y en a pas. Enfin, c'est ça le problème du film aussi. Et qui devrait être un peu sexy parce qu'il y a Jacob Elordi, mais on peut pas avoir de sexe avec du numérique, il y a presque un paradoxe, quoi.
Merci en tout cas, c'était Frankenstein de Guillermo del Toro et c'est sur Netflix à partir de vendredi prochain. Olivier Lam, Muriel Joudet, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui au micro des Midi de Culture. Vous qui nous écoutez, ben maintenant c'est à vous de vous faire une idée.